Je m'appelle Maude Beauvois, je suis professeure de lettres classiques au lycée d'Arras de Liévin. Donc concrètement, cette année, j'ai 4 classes, des secondes en français, des premières en français et en spécialité, et également des terminales en latin. Et donc actuellement, je suis confinée donc avec mon mari qui est en télétravail à temps plein et mes 2 filles, une en maternelle et une en CP.
Je suis Catherine Pécuche, donc je suis professeure d'allemand au collège Georges Brassens à Saint-Venant et puis je suis également secrétaire de la FSU Pas-de-Calais.
Moi, je m'appelle Vincent Gosselin, je suis professeur de sciences industrielles de l'ingénieur au lycée Henri d'Arras de Liévin. J'ai des secondes en sciences numériques, c'est une nouvelle discipline qui est apparue avec la réforme du lycée. En tout, j'ai 154 élèves en fait à suivre.
Je suis Nicolas, je suis professeur des écoles, brigade, c'est-à-dire remplaçant.
Je m'appelle Hubert Sauvage, donc je suis professeur de philosophie et de cinéma au lycée Henri d'Arras de Liévin.
Je suis Florian Rivello, je suis prof de SVT en collège et j'ai à peu près 280 gamins à gérer.
Alors je m'appelle Pauline, je suis enseignante en zone prioritaire en REP plus sur Roubaix. J'ai actuellement un CP, ce sont des CP dédoublés à 12 à 14 élèves.
Jeudi 12 mars, le président de la République a annoncé la fermeture des crèches, écoles, collèges, lycées et universités. Annonce contraire à celle du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, la veille. Si on reconnaît le caractère inédit de la situation et la nécessité de ces fermetures pour le bien de la santé de toutes et tous, de nombreuses critiques pointent un manque de préparation et d'anticipation des institutions, avec par exemple des interfaces numériques saturées, des injonctions contradictoires de la hiérarchie, des carences en moyens et outils pédagogiques. La posture d'incitation au travail et à la continuité pose question d'autant qu'elle fait fi des inégalités sociales, de la fracture numérique, des risques psychosociaux liés à l'utilisation des écrans. Nous avons donc contacté plusieurs enseignants du primaire et du secondaire à Liévin, Saint-Venant ou encore Roubaix. Ils nous livrent d'abord leurs expériences d'une école à distance et d'une continuité pédagogique dont on se demande si elle est possible.
Alors au niveau de la continuité pédagogique, déjà la première chose à dire, c'est qu'il y a eu énormément de bugs, de ratés au démarrage, en quelque sorte, puisque finalement les outils n'étaient pas prêts, les élèves n'avaient pas leur code. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu également en tant que parent d'élève, c'est-à-dire que la première semaine pour suivre les devoirs de ma fille sur le NT, ça a été un capharnaüm pas possible. Ensuite, une fois que les élèves se sont connectés, concrètement, moi j'arrive à poster des contenus via les supports traditionnels, donc c'est-à-dire utiliser principalement Pronote pour nous. Le problème qui se passe, c'est déjà au niveau de l'organisation du temps de l'enseignant, parce que là, concrètement, pour vous dire, cet après-midi, je vais travailler de 14 à 17 heures, puisque j'ai un système de roulement avec mon mari. Et donc, en même temps qu'essayer de travailler, je suis sans cesse interrompue par les questions d'élèves. Donc ça morcelle énormément le travail, surtout qu'on est en année de réforme. Moi, il y a plein de supports que j'ai pas, en fait, que je dois créer. Donc on perd beaucoup de temps parce qu'on doit à la fois travailler, répondre aux élèves, donc faire beaucoup de choses sur des supports différents. Et puis la grande interrogation, c'est que font réellement les élèves chez eux, puisque pour certains, on a des questions qui arrivent ou des retours d'exercices. Et puis pour d'autres, c'est le silence radio sans qu'on sache vraiment si c'est dû à un problème technique, un problème d'organisation familiale, un problème de difficulté. Donc finalement, moi par exemple, sur ma classe de première, je peux vous dire qu'ils sont tous connectés concrètement à Pronote. Par contre, ce qu'ils font réellement chez eux, ça c'est l'interrogation totale. Donc pour ce qui est de la continuité pédagogique, je pense que c'est totalement impossible de déterminer quelles sont les difficultés des élèves, quels sont leurs rythmes, parce qu'ils n'ont pas, enfin tous n'ont pas le réflexe de venir vers nous, donc on avance finalement totalement à l'aveugle.
Donc depuis le confinement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que mes collègues et moi, en fait, naturellement, on va dire, de façon assez autonome, on a mis en place chacun avec, à sa façon, une continuité pédagogique. On communique surtout via Pronote, par des fils de discussion, et c'est par là qu'on voit que des collègues choisissent tantôt le CNED, tantôt de créer un Padlet, ou tantôt de faire une classe virtuelle, ou etc. Personnellement, ce que j'ai fait, c'est que je donne chaque jour, en fonction de l'emploi du temps qui serait normal, du travail sur le cahier de texte de Pronote, parce que je me dis que c'est l'outil normalement officiel. Et chaque jour, je demande aux élèves de m'envoyer, enfin aux élèves concernés, de m'envoyer le rendu des travaux sur ma boîte mail académique personnelle. Donc ça demande beaucoup plus de travail que d'habitude individuellement pour chaque élève. Et la majeure partie, il faut quand même le dire, joue le jeu. Il y en a vraiment très peu qui rendent rien. Et ensuite, pour faire les corrections, faut tout taper, toutes les explications, faut les taper. Donc ça prend beaucoup plus de temps parce que quand on est en cours normal, c'est des démonstrations qu'on fait au tableau. Et surtout, faire un suivi individuel des élèves parce que les élèves, il y a des élèves qui comprennent plus ou moins bien et qui reposent des questions par la suite via mail ou par téléphone. Donc quand on a beaucoup d'élèves, ça prend beaucoup de temps.
Et alors c'était quand même quelque chose d'inédit parce que j'étais pas du tout prêt à ça comme beaucoup de monde, je pense, et j'étais comme beaucoup, je pense, à paniquer un petit peu, enfin, pas trop savoir quoi utiliser comme interface, je vais dire, et le plus difficile, c'était de ramener tous les élèves sur ces plateformes officielles, hein, Pronote, donc un logiciel que l'éducation nationale paye. Comme on le paye, j'estime qu'on doit au moins l'utiliser. Le problème, c'est que les élèves n'avaient pas toujours les codes. Et là, on s'est rendu compte que l'administration aurait peut-être dû quand même, dès le début d'année, ça on le dit toujours, veiller à ce que tous les élèves soient opérationnels là-dessus. C'était pas le cas. Bon, petit à petit, on a rattrapé tout le monde. Alors, si je parle pour ma terminale littéraire, que j'ai 8 heures par semaine, donc avec qui j'ai des relations assez soutenues, on va dire. Finalement, là, aujourd'hui, si je fais le point quand même, après plus de 15 jours de confinement, ça y est, ils sont tous connectés sur la plateforme et ils y vont régulièrement. Je suis pas de la génération ordinateur, moi je suis pas né avec, donc je m'y suis mis petit à petit mon travail, ça me dérange pas, même si parfois ça devient pesant. Donc mes cours sont pas forcément tous dactylographiés et mis sous format numérique. Donc le problème auquel je suis confronté, c'est que je dois dactylographier mes cours. En même temps, c'est pas mal parce que ça m'oblige à préciser et puis aller retravailler, mais c'est un très très gros travail.
Au début, ça a été très compliqué parce que forcément, notre cher ministre nous a dit « Vous inquiétez pas, on a tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne », sauf que les deux premiers jours, l'ENT, donc l'espace numérique de travail qui nous sert d'interface avec les parents et les élèves, ne fonctionnait pas vu le nombre de connexions qu'il y avait. Et puis, d'un côté, je suis un peu tranquille avec les retours des élèves parce qu'en fait, je leur demande pas de devoir à rendre. Donc, je leur donne des questions, je leur donne la partie cours qui doivent, tout ça doit être fait sur leur cahier. Et même si ça prendra du temps, je vais référer tout à la reprise, si reprise il y a, parce qu'on ne sait pas encore le confinement combien de temps ça va durer. Mais on a eu des consignes un peu contradictoires au début. Au début, il faut faire ça, et puis après, il faut changer, il faut faire autrement. Et on a reçu la semaine dernière et cette semaine des directives de nos inspecteurs en disant « oui, il faudrait plutôt faire comme ça ». Ça fait un peu 2 semaines qu'on fait un peu à l'arrache, donc on fait comme on peut. Là, cette semaine, on a eu notre ministère qui nous a envoyé un message en disant « ça y est, on a créé une plateforme pour que vous puissiez transférer vos cours ». Ça fait un peu 3 semaines qu'on fait sans, donc je pense qu'on continuera à faire sans.
Ce qui a été compliqué dans un premier temps, c'est que on a été confronté à quelque chose qu'on connaissait pas, donc l'enseignement à distance, et puis s'adapter aux différentes informations de notre hiérarchie qui venait un peu au compte-gouttes, et puis on a dû réagir aussi assez en urgence. Donc moi après la routine elle s'est mise en place, donc ça fonctionne bien. Ce qui est particulier, je pense, pour nous en REP+, c'est que on a plus d'inégalités sociales, donc ça il fallait les gérer, notamment au niveau de l'accès à Internet ou de l'impression, être en capacité ou pas d'imprimer des fiches du travail par exemple. Là récemment, par exemple, mes CP avaient besoin d'avoir un niveau du travail, du coup je suis allée à mon école, j'ai refotocopié du travail et je me suis vraiment posé la question comment j'allais leur donner. J'ai fini par leur envoyer par la poste.
J'avais pas vraiment le droit de retourner dans mon école pour faire ça, mais bon, c'est un peu compliqué parce qu'on me demande de faire attention justement à ne pas leur demander d'imprimer parce qu'ils n'ont pas tous d'imprimantes, mais ils n'ont pas non plus tous accès à Internet. Et à la fois, il faut assurer la continuité pédagogique. Donc, on utilise sa conscience professionnelle pour dire que le mieux, c'était d'envoyer par courrier. Je vois une différence en tant que maman avec mes filles qui, elles, on reçoit quotidiennement leur travail à faire par jour et on doit imprimer. Et donc j'ai 3 filles et je me retrouve avec 30 à 40 feuilles à imprimer par jour. Je pense que toutes les familles ne peuvent pas le faire. Et d'ailleurs, je suis actuellement en rupture d'encre et ça devient compliqué d'en trouver aussi dans les magasins. Donc bon, moi étant sinon, je m'inquiète pas trop, je vais réussir à adapter pour mes filles. Mais je suppose que pour des familles qui ont beaucoup d'enfants et pas forcément tous les moyens nécessaires, c'est pas toujours simple de pouvoir faire le travail demandé par les enseignants.
Moi, j'aurais commencé par en fait mettre en question les termes de continuité pédagogique, parce que ça, c'est le terme utilisé par la communication ministérielle qui vise à faire croire des choses fausses, c'est-à-dire qui vise d'abord à faire croire qu'on peut avancer dans les programmes, qu'on peut faire comme si de rien n'était, et que les dégâts, entre guillemets, seront minimes en faisant tout reposer sur les enseignants. Ce terme-là, moi, je le conteste. Il peut pas y avoir de continuité pédagogique. Ça, c'est une façon de vouloir faire croire à l'opinion publique et aux parents en particulier que le gouvernement a tout fait, qu'il s'est bien préparé, en fait, hein, pour que les élèves ne pâtissent pas de la situation. Or, ça, c'est faux. Quel que soit l'investissement personnel des enseignants, il est énorme. Il est certainement trop important dans beaucoup de cas, au point où on a beaucoup de retours de parents d'élèves qui se plaignent de la masse de travail. Alors, soit ça pour les parents les plus favorisés, soit de parents d'élèves complètement perdus, qui ne peuvent pas suivre, de toute façon ne peuvent pas aider et ne peuvent même pas juste contrôler le travail qu'il y a à faire, dans la mesure où rien n'a été cadré au départ, dans l'utilisation des outils. Parce que, bien sûr, il n'y a pas à y avoir de cadrage au niveau des contenus pédagogiques, la liberté pédagogique, elle est essentielle, mais au niveau du cadrage des outils. Ce qui fait que de nombreux élèves se voient subitement, alors qu'ils n'y ont jamais été préparés, qu'ils n'ont jamais appris à manipuler des dizaines d'outils différents, à jongler, rien que dans la façon de donner le travail, à jongler entre différentes applications, y compris des applications qui ne relèvent pas de la RGPD. Et alors que quand on les a dans la classe, la plupart des élèves ont déjà des difficultés à changer de support, à passer d'une activité pédagogique d'un support à un autre. On les décroche vite, en fait, ils sont vite décrochés si on ne fait pas attention. Qui a du mal également à suivre, par exemple, à prendre ses leçons dans l'ordre, prendre son cahier ou son classeur dans l'ordre pour les leçons. Enfin, faut vérifier ça. En 6e et en 5e, on peut être amené à faire ça. Pour toutes ces raisons, en fait, on est en train de décrocher. Enfin, c'est pas nous qui décrochons, c'est les élèves qui décrochons, mais parce que les conditions de cette prétendue continuité pédagogique, elles ne peuvent pas faire de toute façon qu'il ne puisse pas y avoir un décrochage. Et ce décrochage, il va être encore accéléré par rapport à la situation qu'on connaît habituellement de difficultés scolaires ou de décrochage.
Avant le confinement, j'étais en charge d'une classe, mais j'arrivais à la fin de ma suppléance. Donc, quand le confinement est arrivé, j'ai essayé de maintenir la continuité pédagogique, ce qui était compliqué parce que j'ai été en remplacement dans une école où les enfants ils sont en difficulté, quoi, en grande souffrance au niveau du scolaire. On n'a pas eu beaucoup de temps pour s'organiser, pour récupérer les mails, tout ça. Donc j'ai réussi à avoir le contact qu'avec quelques enfants. J'ai essayé de mettre en place la continuité pédagogique, mais c'est quand même beaucoup de bricolage. La collègue, elle a repris la classe, la continuité que j'avais initiée. Et donc moi, depuis, on m'a demandé de venir en appui de collègues titulaires de classe qui auraient des difficultés avec l'outil informatique. J'ai aussi participé à l'accueil des enfants de soignants. Je suis porté volontaire. Et puis, il y a d'autres tâches qu'on nous a assignées pour nous aussi participer avec nos moyens à la continuité pédagogique.
Et quelles sont les conditions de travail pour faire des enseignements justement pour ces enfants de soignants? Est-ce qu'il y a des consignes de sécurité, des consignes sanitaires à respecter? Est-ce qu'elles le sont? Est-ce que vous avez le sentiment de vous mettre en danger dans ces cas-là? Est-ce que vous le referiez par exemple?
Oui, on a des consignes, on a les consignes à respecter, les gestes barrières, ce qu'on nous répète, quoi. Et les mairies ont pour tâche de nous fournir du gel hydroalcoolique et enfin le plus de protection possible, parce que voilà, on se retrouve avec des enfants. Moi, je me suis retrouvé avec deux enfants de maternelle. C'est pas évident pour garder la distanciation dans ces cas-là. Il y en a que deux, mais c'est des enfants, des tout petits enfants quand même. Moi, vraiment, mon gros problème à ce niveau-là, ça a été le fait de pas avoir de masque. Ça, c'est ça qui m'a posé un gros problème. En même temps, bien sûr, vu la pénurie qu'il y a actuellement, c'est normal que les masques qui existent aillent d'abord en priorité aux soignants. Et est-ce que je le referai? Oui, je le referai pour les enfants de soignants, je le referai, ouais.
Comment vous vivez cette idée de participer soi-même à un effort alors que du côté des institutions, les moyens ne sont pas mis en place?
L'effort que je fais, c'est pas pour les institutions, en quelque sorte. C'est pour les soignants, en fait. C'est vraiment ça que j'ai dans la tête. C'est bien sûr qu'il y a des manques. Évidemment que on aurait pu prévoir largement avant les histoires de continuité pédagogique. Ça aurait dû être prévu au lieu de dire non, on ne fermera pas les écoles, non, on ne fermera pas les écoles. Et puis finalement, du jour au lendemain, c'est fermé. On aurait pu mettre en place des choses. Et puis après, il y a aussi la nécessaire solidarité qu'on a vis-à-vis des soignants. C'est ils se bagarrent. Enfin, les gens qui m'ont laissé les enfants, là, il y avait un médecin, il y avait une dame qui va faire le ménage à l'hôpital. C'est pas une journée qui risque leur vie, c'est tout le temps. Donc, c'est une chose que d'applaudir à 20h tous les jours aux fenêtres. C'en est une autre que de faire ça concrètement, quoi. Il y a des tas de manques, mais je pense pas que ça puisse justifier le fait que nous-mêmes, on manque à notre devoir de solidarité vis-à-vis des personnels hospitaliers.
Les expériences sont donc contrastées en fonction de la maîtrise des outils numériques, de sa situation familiale, de sa charge de travail, mais aussi de son rapport à la hiérarchie et des consignes que celle-ci transmet.
On doit assurer la continuité pédagogique, mais voilà, on n'a pas trop de... On nous donne des billes, on nous donne des paddles avec des séances toutes prêtes, par exemple sur de l'anglais ou du sport, des choses comme ça, mais qui, moi, me paraissent pas, dans un premier temps, primordiales. Non, on nous demande de faire de notre mieux, on nous envoie des tutos pour utiliser, par exemple, des classes virtuelles, mais... Je ne me suis même pas plongée dedans parce qu'au-delà de l'aspect technique, je trouve que c'est justement... ça creuse l'écart entre les inégalités sociales.
Les consignes ont été floues. Au début, continuité pédagogique, on ne sait pas s'il faut avancer dans le programme ou réviser. Petit à petit, ça s'est précisé. Avec l'idée quand même qu'il ne faut pas trop en faire parce que les élèves sont surchargés, je le comprends, et ils ne sont pas tous à égalité. Ça, c'est quand même très important de le dire. Moi, je dois dire qu'en philo, j'ai pas été embêté par mon inspecteur, ce qui est vraiment pas le cas dans toutes les matières. J'ai vu d'autres inspecteurs de philo dans d'autres académies être un petit peu plus précis et donner des injonctions un peu absurdes. Nous, c'était pas le cas dans l'académie. Ma direction, pareil, je me plains pas, mais c'est pas le cas partout d'après ce que je peux savoir, quoi. La direction, elle nous laisse tranquille, elle nous fait confiance. C'est bien, c'est comme ça qu'on doit travailler dans la confiance. Et l'inspecteur, pareil. Après, au niveau plus élevé de la rectrice et de ministère, ça a quand même été assez confus au départ. Il a fallu beaucoup de temps pour que ça se précise et en disant finalement, allez-y mollo. Ils se sont rendus compte de ce qu'on avait dit au niveau syndical, au niveau des profs en général, à savoir qu'il va y avoir une rupture d'égalité. Parce que tous les élèves, voilà, comme je l'ai dit, sont pas équipés, quoi. Moi, j'ai des élèves qui ont qu'un téléphone pour lire les cours.
Nous, en lettres, les IPR nous ont, donc les inspecteurs nous ont fait parvenir un courrier un peu type à destination de tous les professeurs de lettres de tous les niveaux, qui est un courrier assez bienveillant, il n'y a pas d'injonction. L'idée, c'est que chacun fait au mieux avec ses élèves qu'il connaît. Plutôt leur proposer de ne pas avancer trop dans le programme, mais plutôt faire des révisions, des approfondissements, des découvertes. Donc ça me paraissait plutôt, nous en lettres, une parole de bon sens. Mais par contre, c'est extrêmement flou. On ne vous dit pas concrètement ce qu'il faudrait faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc ça, chacun fait un peu sa petite cuisine. Cependant, on a les épreuves de baccalauréat. Donc ça, c'est la grande incertitude, puisqu'on ne sait pas si elles vont être maintenues. Et donc, par exemple, moi, je travaille à distance sur des éléments qui vont peut-être finalement être supprimés de l'examen final. Donc ça, c'est aussi une question à laquelle on n'a pas de réponse. Et pour ce qui est de nos chefs d'établissement, nous, à Liévin, on n'a pas été, personne ne nous a demandé d'évaluer, de faire ci, de faire ça. La seule demande, ça a été de remplir le cahier texte pour chaque créneau de cours, de façon à ce que l'élève puisse, d'une certaine façon, reproduire son emploi du temps scolaire chez lui, en suivant heure par heure ce qu'il avait à faire. Et puis, on nous a demandé de signaler les élèves décrocheurs, c'est-à-dire ceux pour lesquels on n'avait aucun nouvel, aucun contact numérique. Et puis, quant aux communications du ministère, pour le moment, c'est du flou total.
Il y a des témoignages aussi de parents d'élèves et d'élèves qui disent aussi qu'ils sont débordés. Donc, la rectrice a commencé à mettre un peu, lever le pied en disant aux collègues de moins surcharger les élèves, mais il y a certains inspecteurs qui on dirait qu'ils n'ont pas bien pris la mesure de ce qu'a dit la rectrice, quoi. On sent qu'ils pédalent un peu dans la semoule parce que les consignes, elles sont contradictoires. Tantôt, on nous dit, faut surtout pas, parce qu'il y a certains collègues, il faut le dire aussi, qui sont un peu trop zélés parce que ils mettent des notes, parfois ils mettent des zéros pour des travaux non rendus, ils surchargent un peu les élèves de travaux. Donc tantôt, la rectrice dit, faut lever un peu le pied, faut surtout pas noter, etc. Tantôt, on nous dit au contraire, faut à tout prix maintenir le plus possible le contact avec les élèves pour éviter une rentrée type septembre, et du coup faut donner le nom des élèves qui répondent pas aux travaux. Mais ce que je trouve un peu aberrant, c'est que personne ne sait quand est-ce qu'on va rentrer, et on nous dit de respecter des échéances, par exemple pour fournir des sujets pour les E3C qui avaient lieu normalement le 4 mai. Pour le bac et tout, enfin faire comme si on allait rentrer le 4 mai, alors que peut-être que non, peut-être que on n'en sait rien. On ne sait rien, mais par contre, les inspecteurs, pour se couvrir, on a l'impression qu'ils en demandent beaucoup, et peut-être pour rien, quoi. C'est-à-dire, on nous demande de faire des projets alors que peut-être les projets seront annulés, etc., quoi. Donc, on nous prend un peu pour des exécutants sans tenir en compte notre expertise, notre expérience et puis notre avis, quoi. Le plus important, c'est quand même les élèves.
L'enseignement à distance pose la question des outils numériques, mais aussi celle délicate des risques liés à la proximité continue des écrans. Alors qu'on a supprimé des manuels scolaires qui auraient été bien utiles en temps de confinement, l'école du futur s'expérimente aussi aujourd'hui, apportant la contrainte d'un progrès technique dont on peut mettre en doute l'apport pédagogique.
Alors déjà pour commencer, si on veut la continuité pédagogique, on commence déjà par payer un ordinateur et une connexion Internet aux profs, parce qu'ils sont pas obligés d'en avoir une. Dans le privé, quand les mecs ils bossent sur leur ordinateur, ben ils ont un ordinateur de travail. Et même parfois, ils ont des connexions payées par l'entreprise. J'ai eu des collègues qui en ont pas, qui ont ni ordinateur ni connexion Internet. Vous voyez, ça montre quand même un sacré problème au niveau numérique.
Moi, pour ma part, je vais avoir un gros travail à la reprise parce que je leur ai dit que je vérifierai leurs cahiers. Donc, je vais avoir 280 cahiers à reprendre. Mais bon, on va dire que c'est un peu pour pas avoir... à faire ça en ce moment, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que la deuxième semaine de confinement, on a eu un retour du ministère, etc., où ils demandaient au CPE, au conseiller principal d'éducation, de faire un retour, en fait, de demander aux professeurs principaux et aux professeurs s'ils avaient des retours, enfin plutôt s'ils n'avaient pas de retour de certains élèves, à savoir est-ce que l'élève arrive à se connecter sur Pronote ou est-ce que l'élève ne regarde pas ses devoirs ou est-ce qu'il ne fait pas ses devoirs. On a eu des retours de parents en disant, mon enfant ne veut pas travailler dans ces conditions-là, et j'en ai même une mère qui s'est rendue compte que sa fille lui mentait en lui disant qu'elle n'arrivait pas à se connecter sur le NT alors qu'elle y arrivait très bien. Donc il y a entre guillemets du flicage, mais à savoir est-ce que les gamins reçoivent bien l'information et est-ce que c'est fait. Et apparemment je suis pas le seul prof à avoir fait ce système-là, de ne pas demander de retour vis-à-vis des devoirs qui étaient à faire.
Est-ce que c'est un parti pris ? Est-ce que c'est aussi pour diminuer la pression dans un contexte qui est déjà aussi anxiogène ?
Oui, enfin, en partie, oui. D'un côté, c'est pour me, comme je l'ai dit, c'est pour me faciliter la tâche, hein, en mode, je ne vais pas toutes les semaines récupérer 280 copies. Ça va être beaucoup plus de travail que je fais d'habitude. Et déjà, d'habitude, je m'en sors pas avec le peu de copies que je peux ramasser dans la semaine. C'est vraiment par souci d'un bon travail.
C'est un truc qu'il faut bien comprendre parce que les gens se rendent pas compte. Quand j'entends des témoignages, on dit oui, mais maintenant, les ados, ils ont tous un portable dans la main, donc ils sont à l'aise avec le numérique. C'est totalement faux. Donc là, ça monte les limites parce que on leur demande d'aller chercher des fichiers joints, d'ouvrir des pièces, de répondre sur d'autres fichiers et puis de retransférer. Il y en a beaucoup qui n'y arrivent pas, qui ont du mal, etc., et dont les parents peuvent pas forcément les éclairer là-dessus. Donc
c'est absolument contradictoire. En plus, il faut savoir qu'ils ont une information à la santé numérique, hein, qui est faite par l'infirmière scolaire. Toutes les classes, au collège en tout cas, toutes les classes, une fois par an, ont une heure d'information sur ces questions-là. L'institution nous enjoint à utiliser le plus possible d'outils numériques. Je suppose pour faire preuve de modernité, alors que c'est pas forcément nécessaire. Hein. Il y a beaucoup de choses qui ne font que, enfin, en fait, on change le support, mais il n'y a jamais un plus pédagogique. C'est complètement contradictoire. Enfin, c'est quoi comme message en termes éducatifs ? On leur a répété des choses pendant un certain temps. Certains en ont eu conscience, d'autres non. Et aujourd'hui, on leur dit exactement le contraire. Enfin, on leur demande de faire exactement le contraire. Et puis au niveau de leur santé, hein, simplement au niveau des risques psychosociaux, ils sont réels, je pense.
Ouais, en même temps, on peut le comprendre parce que c'est du jamais vécu, quoi. C'est inédit. Puis en même temps, on ne souhaite pas non plus que ce soit opérationnel tout le temps, parce que sinon, on va nous dire restez chez vous, puis faites tout le temps comme ça, quoi. On a quand même besoin d'un contact avec les élèves. Si la plateforme officielle avait été bien opérationnelle au départ et que tous les élèves avaient leur code, on aurait perdu moins de temps. Je trouve normal qu'il y ait un temps d'adaptation, pas normal que tout le monde soit pas prêt, qu'au départ les élèves n'avaient pas leur code, quoi.
Le confinement et les moyens déployés pour enseigner à distance sont aussi révélateurs des inégalités socio-économiques. Fractures numériques, mais aussi sociales, inégalités des savoirs familiaux, dans ces conditions, l'école de la République a encore moins les moyens de garantir l'égalité des chances.
Le problème de cette situation, c'est que il y a des enfants, en général, qui, quand ils sont loin de l'école ou en rejet de l'école ou en souffrance à l'école, le fait de travailler par Internet à distance, c'est souvent ces enfants-là qui sont loin, quoi, qui sont encore plus loin. En fait, c'est pour ça que ce mode de travail qui je critique pas parce que il est en fonction des circonstances, mais ce mode de travail, à mon avis, il contribue à augmenter les inégalités scolaires.
Le souci qu'il y a aussi, c'est les élèves qui n'ont pas internet ou qui n'ont pas d'ordinateur. On a beaucoup de parents qui nous disent que, ben, en fait, leur enfant ne peut récupérer le devoir que sur le téléphone. Donc, en fait, il y a certains sites internet ou certains fichiers envoyés qui ne sont pas visibles à partir d'un smartphone. Et donc, on a des soucis aussi pour des gamins qui n'ont pas le matériel à la maison pour travailler correctement.
Effectivement, nous, on doit aussi accompagner les parents pour pouvoir expliquer aux enfants. On passe énormément de temps à expliquer aux parents comment expliquer aux enfants. Un premier pas. Chaque cantine de mon école, on a tous dans notre classe quelques élèves pour qui on n'a pas de solution, pour qui les familles sont parlent pas couramment le français, ou même si elles le parlent, elles ont un parcours scolaire qui a été compliqué. Donc accompagner les enfants, c'est pas toujours simple. Alors, toutes les semaines, je téléphone aux familles pour lesquelles c'est un peu plus compliqué, où j'ai moins de contacts par mail.
Mais même par téléphone, la communication est très basique.
Le bon sens du professeur voudrait justement de pas trop en faire pour ne pas justement aggraver ces inégalités. C'est pas non plus forcément une question de fracture numérique. Il y a aussi la question des élèves qui sont à plusieurs sur un même ordinateur ou des élèves qui sont dans des conditions de vie avec, je sais pas, qui peuvent partager la chambre avec des petits frères et des petits... Moi, j'ai un élève en terminale qui m'explique qu'il a beaucoup de mal à se concentrer parce que finalement, il est dans la même chambre que ses petits frères et du coup, ils font un bazar pas possible.
On parle peu aussi, j'essaie de lire beaucoup, mais je trouve qu'on parle peu des conditions sociales concrètes des élèves. C'est-à-dire que souvent, l'argument qui est mis en avant, c'est la fracture numérique, le fait d'avoir une connexion ou pas, le fait d'avoir un débit lent ou un débit normal ou rapide, le fait d'avoir une tablette, un ordi ou des ordinateurs en nombre suffisant s'il y a plusieurs enfants à la maison, si un parent travaille en télétravail, etc. C'est toujours ça qui est mis en avant. Par contre, le reste, c'est-à-dire sur quelle surface les familles elles vivent. Quand on est à plusieurs enfants avec des parents confinés sur une toute petite surface, moi j'ai un certain nombre d'élèves qui sont dans ce cas-là, je vois pas comment on peut continuer même à faire un travail, même minimal, c'est vraiment très compliqué. On a beaucoup d'élèves aussi qui ne mangent qu'un seul repas chaud par jour, parce que c'est le repas de la cantine le midi, notamment grâce à l'aide sociale du conseil départemental. Enfin, tous ces facteurs-là, on n'en parle jamais. Pour moi, c'est des facteurs qui plombent considérablement les situations d'apprentissage. En plus, je suis très en colère avec les annonces de soutien là pendant les vacances de printemps pour les élèves qui sont en difficulté. Donc les élèves qui sont pas en difficulté, qui ont la chance d'avoir de bonnes conditions d'apprentissage, souvent d'avoir des parents qui peuvent les aider, eux auront droit à des vacances. Et les élèves qui seront en difficulté, on leur demande de suivre un nouveau programme encore connecté, alors que la plupart du temps ce sont des élèves qui ont des difficultés de connexion. Et donc, pour arriver à quoi, au bout du compte? Pour dire en gros que s'ils sont décrochés, c'est de leur faute à eux, c'est de la faute de leur famille, mais que l'institution aura tout fait. C'est absolument inacceptable. C'est révélateur, en fait, de déni récurrent et qui ne cesse de s'aggraver au sein de l'éducation nationale, comme dans d'autres secteurs. Hein.
Dans des conditions d'enseignement difficiles mais surtout inégalitaires, n'aurait-il pas fallu alors proclamer une vacance de l'école qui aurait eu le mérite de ne favoriser personne? Sur ce sujet, les avis sont contrastés.
Ouais, je pense qu'on a attaqué trop fort et qu'il aurait fallu être plus progressif et dire la priorité c'est la santé, puis maintenant on va tout doucement mettre en place la continuité pédagogique, j'aime pas ce terme, c'est comme... Le terme « nation apprenante », non seulement l'expression est laide, mais en plus, elle n'est pas très signifiante. Quoi. Là, ça a été la précipitation tout de suite, et il y a probablement des collègues qui sont précipités un peu vite aussi, sur des plateformes de grands groupes qui récupèrent les données, etc. Et je trouve que là-dessus, il y a eu un vrai retard à l'allumage de l'administration pour dire « attention, il y a des réglementations, on n'a pas le droit, on est prêt, le ministre... » Dès le début, il a dit « quoi qu'il se passe, on est prêt ». Ben, en fait, on n'était pas prêt. Mais au lieu de dire la vérité, il faut mentir et puis faire comme si. Et quand on fait comme si, ça ne marche pas.
C'est malheureux à dire, mais c'est quand même une situation exceptionnelle et d'une gravité aussi exceptionnelle. C'est d'essayer de se dire, à un moment donné, au niveau de la progression, on ne peut pas faire comme si il n'y avait pas de confinement. C'est-à-dire les nouvelles notions, les réserver pour plus tard. Et juste faire travailler les élèves sur des choses déjà vues, sur des acquis déjà vus en cours, et de leur faire faire des exercices sur ces acquis pour les renforcer, mais pas de voir des nouvelles notions. On m'a demandé de suivre le programme. Là, j'ai essayé de leur donner des cours sur des nouvelles notions, numération, etc., qu'on n'avait pas encore vues. Les élèves, ils me retournent tous qu'ils n'ont rien compris, malgré mes efforts, etc. Donc... faut un peu plus de compréhension pour les élèves.
Arrêter complètement, je suis pas pour l'arrêt total. Après, il y a autre chose, c'est que moi, en tant que maman d'élèves de CP, je suis très surprise. J'ai créé un groupe mail avec d'autres parents d'élèves. Et j'ai des mamans qui sont vraiment extrêmement en attente de contenu pour leurs enfants, un peu de contenu pédagogique dans la journée. Pour elle, c'est une façon de structurer la journée des enfants, je parle pour les primaires, hein, et de conserver un rythme. Et vraiment, c'est des parents qui bizarrement appréhendent un peu les vacances scolaires, parce qu'elles vont se dire, mais comment on va faire pendant les vacances scolaires, sachant qu'il n'y aura plus de devoirs, entre guillemets, et qu'il va falloir un peu s'occuper des enfants à l'intérieur toute la journée.
Il aurait fallu se poser la question, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut mettre en place? Qu'est-ce qu'il est raisonnable de mettre en place? Est-ce qu'il aurait été grave de mettre les élèves en vacances pendant 2 ou 3 mois? Personnellement, je le pense pas, moi. Hein. C'est la façon même de pouvoir continuer qui pose problème. C'est le fait déjà de pouvoir se repérer dans des outils numériques multiples et variés. Donc là, on a un rappel là depuis quelques jours. Nous, la FSU, on l'a réclamé à corps et à cri, d'avoir un rappel aux collègues de privilégier les outils institutionnels. Donc le NT, la classe virtuelle pour ceux qui le souhaitent, sauf qu'on a découvert entre-temps que la classe virtuelle, en fait, qui passe par le CNED, elle est hébergée chez Amazon, donc gros problème quand même. Mais que de toute façon, on sait bien, enfin les élèves qu'on a en classe, qu'on arrive à faire travailler parce qu'on est là en vrai, parce qu'on voit dans leur regard, on passe à côté d'eux, on est... Moi je suis prof de langue, donc on est toujours dans un échange physique concret, voilà. Mais là, on peut pas le faire. Pour n'importe quel outil numérique, c'est pas possible. De toute façon, même le meilleur outil numérique, même la meilleure préparation là pour le coup de l'institution, elle peut pas pallier ça. Il faut pas faire croire que un outil numérique peut remplacer l'enseignement en présentiel avec des vrais enseignants qui sont en face, qui sont en vrai dans la classe et qui prennent en charge concrètement, physiquement.
Moi, au début, je me disais, bon, maintenant, c'est pas un mois ou deux qui changeront le cours de leur scolarité. Donc ça, c'est certain, dans un premier temps. Dans un deuxième, et c'est la quantité de travail aussi qui pose question. Moi, personnellement, je sais moins que ce que les enseignantes de mes filles envoient, par exemple. D'une part, est-ce que c'est vraiment important? Et d'autre part, il y a une pression qui est mise et aux parents et aux enfants dans certaines écoles, où je sais que on en demande trop aux enfants, trop aux parents, et alors que je trouve que c'est une formidable parenthèse qui s'offre à nous aussi pour rien faire, pour jouer, pour avoir du temps en famille, pour discuter, pour lire ensemble, pour voilà, jouer dans le jardin, faire des cabanes, ou même rien faire, même s'ennuyer. Et dans nos sociétés actuelles, on oublie un peu tout ça, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est hyper intéressant aussi, quoi, finalement, moi j'appelle ça une parenthèse dans nos vies actuellement. Et moi, je sais que, en discutant avec mes parents d'élèves, je leur ai dit que ça, c'était quelque chose qui s'offrait à nous et qu'il fallait le prendre, en profiter, et que les devoirs, c'est bien d'en faire, en fait, pour un peu entretenir, voilà.
Enfin, se pose la question du retour, de la reprise des cours. Même si l'incertitude règne, nous avons demandé à chacun et chacune ce qu'il en pensait.
On n'a pas la réponse, quoi. On est tous... C'est une situation que tout le monde découvre. Encore une fois, que je pense qu'on aurait pu anticiper un petit peu, mais de toute façon, que personne n'aurait imaginé il y a encore 2-3 mois, quoi. Donc, ce qui est sûr, c'est que les collègues, en grande majorité, et je crois que ça a même surpris jusqu'au ministre, ils font le boulot, quoi. Ils sont vachement engagés. Il y a des volontaires pour garder les enfants de soignants. Il y en a plein. Et puis même les collègues qui sont en charge de classe, tous les retours montrent que ils sont à fond sur le suivi des élèves, même ceux qui ne maîtrisent pas l'informatique. C'est aussi pour ça que c'est important le service public. C'est non seulement pour les soignants, on le voit, mais aussi le service public d'éducation. Ce sera important de s'en rappeler.
Je précise aussi que hier, justement, j'ai envoyé un message à mes élèves. J'ai fait un peu le point. Là, j'ai pas donné de cours et j'ai envoyé un long message pour dire on entre dans la 3e semaine. C'est-à-dire que j'ai pris le temps de dire aux élèves aujourd'hui, je vous parle pas de cours. Je parle de vous, comment ça va, etc. Quoi. Ils ont été contents aussi de... voilà. On est à distance, on se voit pas, on peut pas échanger, normalement, on va dire. Et donc, ils ont apprécié ça, qu'on prenne le temps de lever le pied, de discuter ensemble, de la famille, comment ça va, etc., etc., quoi. Quand on est en face à face, parfois on se prend la tête, mais quand on est loin aussi, on peut jamais échanger sur des choses simples, mais essentielles, quoi. Mais cela dit, je préfère aussi qu'ils arrêtent de dire à l'avance ce que faisait toujours le ministre, de dire, ah, on va reprendre là, on va pas s'arrêter, puis après on va s'arrêter, mais on va reprendre là. On sait pas, on dit qu'on sait pas. On est honnête. Ce qui est bien aussi, c'est de dire on sait pas et d'abord la priorité, c'est la préservation de la santé de tous. C'est ce qu'il aurait dû dire dès le début.
On sera bien obligé de redire qu'on reprend au 13 mars, quelque part, que ce qui a été entre deux, ça a été un lien, un entretien de certaines choses. C'est le discours le plus raisonnable, je trouve, pédagogiquement. Et que pour moi, il faudrait que, honnêtement, l'institution, elle prenne en compte, là, cette grosse parenthèse qu'il y aura eu pour revoir l'ensemble des programmes pour les années à venir. Si on veut garder le maximum d'élèves, de jeunes avec nous, en décrocher le moins possible, il faut penser à tout ça.
Pour le retour, je pense qu'il faudra peut-être des remédiations par petits groupes, il faudra faire de toute façon ce qu'on sait faire, hein. Il faudra faire de la différenciation. De toute façon, on est tous dans l'inconnu, donc on n'en sait trop rien. Là, le ministère, je trouve qu'il a indiqué une piste qui pour moi va dans le bon sens, c'est-à-dire de dire on ferme pas forcément autant de classes que ce qu'on disait pour faire des plus petites classes, parce que là, pour rattraper, de toute façon, il va falloir faire des petites classes. Ça, je pense que par contre, ça va dans le bon sens, quoi. Si c'est suivi des faits, ça va dans le bon sens.
Par téléphone, vous avez pu entendre Maude Beauvois, professeur de lettres classiques, Hubert Sauvage, professeur de philosophie, Vincent Gosselin, professeur en sciences industrielles de l'ingénieur, tous trois enseignants au lycée Henri d'Arras à Liévin. Mais aussi Catherine Piécuche, professeure d'allemand au collège Georges Brassens à Saint-Venant, secrétaire FSU du Pas-de-Calais, Nicolas, professeur des écoles Brigade, Florian Rivello, professeur de SVT en collège, et Pauline, enseignante en classe de CP en REP+, zone prioritaire, à Roubaix.